Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà.
Hello.
Bonjour.
Comment ça va ici, mademoiselle? J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du JT Mode. Ça fait plaisir de vous voir, de vous retrouver. Voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis trop contente. Vraiment. Voilà, non, je suis trop contente. Vraiment.
Bienvenue, bienvenue dans le JT Mode, le journal Twitch de la mode made by Mademoiselle. Donc c'est, on est là pour 2 heures, de 18h à 20h, en charmante compagnie. On va se présenter tout de suite. Bah du coup, Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Oui, je me présente. Je m'appelle Sarah, alias Itzaru. Vous m'avez déjà vu très sûrement sur la chaîne Twitch Mademoiselle. Très souvent, je stream sur la chaîne. Actuellement, je suis en études de mode, donc dans management de la mode et du luxe, en bac plus 4. Je fais à côté de cela du design dans la mode également pour ma propre marque de prêt-à-porter de luxe pour hommes. Et je suis aussi photographe et créatrice de contenu pour d'autres plateformes comme TikTok, Instagram, tout ça. Voilà.
Waouh.
Et toi, Fatou, est-ce que tu veux bien me présenter, s'il te plaît?
Alors, moi, je suis Guérassi Fatoumata. Donc, je suis dans un premier temps la créatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Guérassi Fatim. Et dans un second temps, je travaille aussi en tant que styliste et directrice artistique pour des artistes, pour de la vidéo et pour toutes sortes de projets.
D'accord, d'accord. On va en parler juste après plus amplement. Et toi, Kemaïs, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Yes, et je m'appelle Kemaïs Benlagdar et je suis doctorant en ce moment dans un partenariat entre la Sorbonne Paris 1 et l'Institut français de la mode. Et j'écris une thèse sur l'orientalisme dans la mode. On aura l'occasion d'en discuter par la suite. Et je donne des cours, pas mal, d'histoire de la mode, voilà, globalement.
Ok, que des personnes impressionnantes à cette table, que des numéros 10 dans ma
tête.
Ok, c'est formidable. En tout cas, dans le chat, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on vous lit, on va y répondre en direct. Ça va être hyper intéressant. Et moi, je suis Anthony Vincent, journaliste mode pour Mademoiselle. Et bienvenue encore une fois dans le JT Mode. Alors, on va commencer par un petit tour de l'actualité de la mode, de qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois dans l'industrie. Du coup, il y a des choses qui vous ont marqué. Tout à l'heure, on parlait en off d'Elisabeth II. Déjà, est-ce que pour vous, c'est une icône de la mode?
Bien
la
sûr.
Reine, feu, la reine, Elisabeth
moi,
II.
Moi, je dirais que oui.
Bien sûr.
Ok. Pourquoi?
Bah, elle avait quand même son style, même si elle avait des codes à respecter. Enfin, son histoire de color block, toujours à la pointe. Enfin, pour moi, ça reste comme c'est quand même une icône de la mode. Et il y a certains créateurs qui se sont inspirés. Elle a marqué en tout cas la culture anglaise.
Ouais, elle s'habillait tellement
dans
tout le temps
musique,
pareil.
Dans la musique, dans tout, dans la culture, enfin la culture, quoi.
D'accord.
Elle s'habillait tout le temps pareil, sans jamais s'habiller pareil. Et en plus, c'est la reine. Donc du coup, on est sur l'une des personnes les plus médiatisées au niveau mondial. Donc certainement l'une des seules bonnes femmes. Dont la garde-robe n'a aucun secret pour personne.
C'est vrai.
Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que c'était une dame, enfin une vieille dame. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la contrainte du protocole et de son statut, bah, elle osait quand même vachement, quoi. Les couleurs, enfin les chapeaux.
Mais justement, je crois que ça faisait partie du protocole que de s'habiller de manière colorée pour aussi des enjeux de sécurité, afin de pouvoir être repéré facilement.
Donc
oui, il faudrait la récupérer et tout.
Ça,
je mets un article tout de suite dans le chat. Parce qu'en fait, oui, elle devait donc respecter certains codes, comme toujours avoir des collants couleur chair, comme toujours avoir des poids pour alourdir l'ourlet dans ses jupes pour éviter de faire une Marilyn, que sa jupe ne se soulève à cause du vent. Mais elle s'habillait aussi colorée pour des enjeux de sécurité, pour être opérable dans la foule, quoi, à tout moment.
Trop bien.
Toi, est-ce que, à tes yeux, Sarah, c'était une icône de mode, Elisabeth II?
À une période, oui. Mais après, avant qu'elle décède, etc., je pense que, on la calculait pas trop. Donc, je vous avoue que, bon, moi, pour moi, quelqu'un qui est vraiment une icône de la mode, on parle tout le temps d'elle. Après, c'est la reine d'Angleterre. Elle est toujours médiatisée, donc c'est normal que, oui, on parle d'elle, mais on parle pas d'elle dans le sens fashion, en fait. On parle plus pour autre chose. Donc, c'est pour ça que, pour moi, elle peut pas réellement rentrer dans la case icône de la mode. Mmh. Peut-être vraiment dans les années 50, 60, oui, parce qu'on a vu au niveau de ses garde-robes, c'était un peu plus osé, elle était un peu plus jeune. Bon, maintenant, quand elle a été un peu plus, elle a pris de l'âge, la garde-robe change également, et ce qui fait que, non, on peut, enfin, moi, pour moi, je ne peux pas appeler ça une icône de la mode. C'est un peu un mot trop fort pour ce que c'est. Voilà.
Ok, d'accord. Désolée, Elisabeth. Non, non, mais vraiment, paix à son âme. Un peu de respect, s'il vous plaît. On peut parler d'un tout autre sujet ou peut-être une icône de la mode incontestable, en tout cas, je l'espère, Beyoncé. Beyoncé, elle a été nommée ambassadrice de Tiffany & Co. il y a quelques mois maintenant. Mm-hmm. Il y a une première campagne qui avait fait polémique où elle a porté un diamant jaune énormissime. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces images. Mm-hmm. Voilà, un diamant qui vient de certaines mines en Afrique du Sud, il me semble, qui pose des questions à plein d'égards. Mm-hmm. Là, il y a une nouvelle campagne qui vient de sortir où on la voit porter un bijou encore plus, enfin, différent. Hein. C'est pas des grosses pierres cette fois-ci, c'est une énorme maille, enfin, un collier, pardon. Assez impressionnant. Je vais vous le montrer d'ailleurs juste après. Mais en fait, il faut savoir aussi que Tiffany a été rachetée par LVMH il y a quelques années maintenant et qu'ils essayent de faire un rebranding, en fait, de recréer leur image, de la rajeunir aussi. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce choix d'égérie et qu'est-ce que vous pensez de cette fusion entre LVMH et Tiffany, de ce rachat de LVMH, LVMH qui rachète Tiffany's?
Bah déjà, je sais que Tiffany & Co. c'est une marque américaine. Et ce qui fait que je pense il y a le fait que LVMH arrive un petit peu récupérer Tiffany & Co., je ne vais pas dire que ça rend francisé la marque, mais ça se voit qu'ils veulent rajouter un peu leur petite pincette d'ADN très français, très de la haute, très luxueuse, etc. Et oui, effectivement, le choix de Beyoncé, c'est une très bonne stratégie, sachant qu'actuellement, elle est très hype. Surtout avec les derniers, le dernier album qu'elle a sorti.
On attend les visuels.
Oui, en plus. mais oui, enfin, j'avais vu aussi, je sais pas s'il y a la vidéo de la communication qui a été faite, la première communication qui a été faite pour Tiffany & Co. Avec Beyoncé, où on l'entend chanter avec le piano accompagné de son mari.
Ouais, elle chantait Moon River.
Il y a ce côté très romantique, glamour, enfin. Qui est très beau à voir en soi. Mais après, oui, au niveau des polémiques à côté, c'est vrai que quand on voit un petit peu le combat de Beyoncé, qu'à côté, on voit Tiffany & Co. ce qu'ils font, c'est vrai qu'on se pose des questions. Donc, ouais. Ouais, voilà. Bah, c'est exactement celle-là, ouais.
Ouais, toi, Fatou, qu'est-ce que t'en penses de ce choix d'égérie et de cette campagne qui perdure, qui se poursuit?
Bah, stratégiquement, c'est le meilleur choix qui soit. C'est quand même Beyoncé, c'est une star internationale qui touche toutes les tranches d'âge aujourd'hui, tous les. Je vois pas quelle star aujourd'hui réunit autant de personnes.
Mmh. Ouais.
Que ce soit de le public féminin ou masculin, elle a un branding aussi qui est super bien travaillé, donc. C'est une plus-value pour une marque comme Tiffany & Co. qui a besoin de se rafraîchir un petit peu et beaucoup même. Enfin, pour moi, c'est bien joué. Quoi.
Ouais, bien ça, un coup de pied dans les bijoux de famille de Tiffany & Co. Bah du coup, là... merci.
On est pas mal, je suis un très très bon public. Hein.
Ah, j'adore. Tu peux dire que c'était vraiment drôle.
Oui, c'était bien drôle.
Du coup, là, vous voyez dans la campagne... C'est la campagne, il y a 6 mois, About Love, le premier volet de la campagne... Parce qu'en fait, c'est le couple Carter qui est ambassadeur de Tiffany & Co. Mmh. Et donc là, l'énorme diamant jaune que vous voyez, c'est le diamant qui est au cœur de la polémique aussi à l'époque, en tout cas il y a 6 mois. Et là, je vais vous montrer la nouvelle campagne. Mmh. Mais toi, Kémaïs, qu'est-ce que tu penses de ce choix d'égérie? Et qu'est-ce que tu penses que ça veut dire pour Tiffany de choisir quelqu'un comme Beyoncé?
Mais je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est chanteuse en ce moment qui fait énormément de bruit en plus avec toute une idée de réinvention d'elle-même, de relancement d'un nouveau style de musique, vestimentaire, etc., etc. Donc, surfer sur la vague de ça pour justement, du coup, s'en servir pour image de marque, ça marche de fou, quoi. Enfin, et en plus, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que finalement, c'est pas nouveau, les très 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 grandes stars qui ont une actualité et qui font du coup, enfin, qui deviennent égérie de marques de luxe. Enfin, c'est un petit peu le même principe à chaque fois. Donc, je sais pas, voilà, moi, je trouve que c'est cool. Et aussi, est-ce qu'ils essayent pas de se la jouer un peu des coloniaux et un petit peu Black Power?
Ouais.
Et donc, du coup, de targeter une nouvelle, peut-être une nouvelle cible, enfin, un nouveau marché, etc. Donc, pourquoi pas?
C'est ça. Après, je pense que les gens attendent un peu plus de transparence de la part de la marque Tiffany & Co. Même s'ils ont pris comme égérie Beyoncé, la transparence, elle n'est pas encore réellement présente.
Surtout que quand on parle de joaillerie, on parle du coup de métaux précieux et aussi de pierres précieuses. Et donc l'extraction de ces pierres-là pose aussi beaucoup de questions. C'est intéressant que tu parles de transparence, Sarah, parce qu'effectivement, on parlait autrefois de diamants de sang pour désigner justement ces pierres qui ont été obtenues par des moyens hyper hyper inhumains en fait parfois, et aussi fruit de la corruption aussi parfois, enfin tout ça est entremêlé. Donc avoir une égérie comme Beyoncé, est-ce que ça permet pas aussi de mettre un voile sur tout ça et de dire regardez, on est trop cool, ne regardez pas trop précisément s'il vous plaît.
Un super film
en 2022 en fait.
Un super film qui s'appelle Blood Diamond, qui parle justement des diamants de sang et de l'extraction, etc. Qui date d'il y a bien 15 ans maintenant.
Ouais, 2006.
Ouais, et il est vraiment super. Il est extrêmement dur à regarder, mais c'est super.
Ok, bah je vous le mets dans le chat tout de suite. Il y a un autre sujet aussi qui a un peu secoué l'actualité, c'est la publication d'une étude. Enfin non, ça n'a pas secoué l'actualité, je vais vous dire totalement, personne n'a remarqué. Non, je crois que Quotidien, on a fait un point d'ailleurs vidéo, l'émission Quotidien sur TMC, si ma mémoire est bonne. Alors en gros, il y a une étude faite par un journal allemand qui a étudié des milliers de vêtements, 20 000 hauts et bas du rayon junior de marques populaires comme H&M ou Zalando, pour en tirer quelques chiffres assez éclairants sur la mode enfantine et essayer de se rendre compte est-ce que il y a une différence entre les vêtements pour petits garçons, et les vêtements pour petites filles. Et il s'avère que oui, à la surprise de personne, dès le plus jeune âge, les petites filles sont amenées à être habillées de manière beaucoup plus courte, ajustée et dénudée que les petits garçons. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Faites-vous peut-être?
Non. Non, mais on va se dire la vérité, c'est pas surprenant. Je pense que dans la société, c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. On imagine qu'une petite fille, c'est la version miniature d'une femme. Du coup, toutes les coupes vont vouloir être plus féminisées tout de suite, plus ajustées, cintrées. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça n'arrange rien. Parce que, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de pages d'enfants, modeuses.
Ouais.
Et modeux aussi, mais beaucoup modeuses. Et... à mon avis, ça va pas aller en s'arrangeant. Parce qu'on est au tout début de cette ère-là.
L'idée du vêtement aussi qui est pas du tout confortable, où on peut pas mettre ses mains dans ses poches lorsqu'on a un jean et qu'on est une femme. J'avais déjà fait l'expérience de mettre un vêtement ajusté de femme. C'est incroyable, l'emmanchure est placée tellement plus haut.
Ouais, contre l'aisselle, t'as pas de mobilité.
T'as aucune mobilité, et en fait, tu t'en rends compte empiriquement, avec ton corps, ton expérience, etc. Et ça me choque absolument pas. J'ai même envie de dire... what did you expect? Enfin, c'était un peu...
surtout la liste des marques qui est citée, c'est pas étonnant. En fait, c'est pas du tout étonnant venant de ces marques-là qui se basent sur des critères... on sait même pas... Il n'y a même pas de nom sur ces critères-là, en fait. Et aussi au niveau des tailles standards aussi, entre guillemets, que l'enfant, il a cette morphologie. Enfin, toutes ces choses-là. Et après, faut aussi savoir quelque chose, c'est que certes, les vêtements pour petites filles sont plus courte que celle des petits garçons, mais ça veut pas forcément dire que on aura du mal à trouver des choses un peu moins courtes que d'habitude. Enfin voilà, c'est,
oui, c'est
je veux
vrai.
Quand même préciser là-dessus pour pas non plus inquiéter certaines personnes qui voilà quand même veulent rester simple ou quoi que ce soit pour leurs enfants. Mais on a toujours eu le fait de genrer déjà les enfants. Il y a aussi certaines marques qui sexualisent entre guillemets aussi l'enfant, mais moi je trouve que chacun achète ce qu'il veut à son enfant tant que son enfant est à l'aise avec. Chacun ses valeurs là-dessus, et on est personne pour dire que ouais non ton enfant doit s'habiller de telle manière. Mais effectivement, les noms des marques qui sont citées comme H&M, il y a eu aussi Zara, c'est ça,
H&M, Zalando. Et About You, qui est moins connu en France, mais c'est une marque de mode enfantine qui est plus connue en Europe germanique. Mais oui, ouais. Donc t'es pas étonnée du tout.
Franchement, non, parce que, enfin,
ouais. On peut peut-être se demander pour quand est-ce que ça va changer, est-ce qu'il va y avoir une évolution, mais on peut pas être étonnée.
Je sais pas s'il y aura réellement une évolution, sachant que la mode enfantine est un peu, c'est vraiment un autre monde entre guillemets, sachant que l'enfant grandit. Donc on sait que c'est des vêtements qui ne résistent pas comme ceux qui sont comme les vêtements adultes. Je suis pas étonnée qu'il y a des vêtements plus courts pour les petites filles, sachant que oui, il y a aussi cette inspiration sur le vêtement fait de pour femmes. Voilà.
Et c'est aussi les parents qui achètent. Donc il y a peut-être moyen aussi de vouloir plaire aux enfants, une recherche pardon, de vouloir plaire aux parents qui achètent les vêtements plus qu'aux enfants eux-mêmes et elles-mêmes, parce que peut-être que les petites filles réclament des poches et des shorts qui leur permettent de courir dans l'herbe et d'escalader des arbres, mais qu'en fait que c'est les parents qui décident, et du coup ils achètent un short qui est en moyenne 6 cm plus court que celui des garçons, d'après l'étude que je vous ai mise dans le chat. Et tu disais, Sarah, que la mode enfantine allait peut-être pas changer de si tôt, ou en tout cas que c'était un monde à part. J'ai aussi de mettre dans le chat un lien vers un article que j'ai écrit sur le fait que, enfin, Jacquemus par exemple se lançait dans l'enfant, et qu'il y a plein d'autres, enfin dans la mode enfantine, et qu'il y a plein d'autres marques comme ça de luxe, de créateurs, de designers qui se mettent aussi à faire de la mode pour enfants, parce que c'est un marché hyper lucratif en fait, puisque les enfants grandissent très vite, et donc ils achètent beaucoup de vêtements, ils ont besoin de beaucoup de vêtements. Et une fois qu'on a fidélisé les parents, pourquoi pas fidéliser les enfants aussi, futurs consommateurs et consommatrices.
C'est ça.
Voilà. D'ailleurs, toi, est-ce que t'as déjà pensé, Fatou, à faire de la mode pour enfants?
Franchement, non. Ça, pour l'instant, c'est vraiment pas ma priorité. J'aimerais beaucoup faire de l'homme, par contre.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais peut-être plus tard, si j'ai un petit bébé, peut-être que ça me donnera plus envie, mais pour l'instant, c'est pas...
Okay.
Je pourrais pas m'exprimer, enfin d'après moi en tout cas, je pourrais pas m'exprimer autant que je m'exprime sur de la femme ou sur de l'homme, peut-être.
Est-ce que ça t'arrive d'être inspirée par des matières?
Oui, bien sûr.
D'accord, bien parce sûr. Que justement, c'est une transition toute trouvée. Non, je rigole. pour parler du sujet suivant sur les matières, justement, il y a une matière qui est en train d'être développée autour de protéines de lait. Est-ce que t'as entendu parler de ça? Est-ce que c'est un truc qui t'interpelle?
J'ai entendu parler de pas mal de types de matières, par exemple à base de champignons, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que le lait, j'en avais pas du tout entendu parler avant aujourd'hui, pour être franche. Et c'est, je trouve que c'est incroyable.
Ouais, c'est assez incroyable.
Où est-ce qu'on peut aller en termes de créativité avec de telles matières? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour des gens qui aiment la mode, ou est-ce que c'est vraiment pour l'écolo qui veut juste respecter la nature?
Juste. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais justement, il y a un créateur français qui s'y essaye, et je trouve que c'est assez créatif. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs, Fatou, et Sarah, toi aussi, qui as un œil de créatrice, et d'ailleurs, Kemaïs aussi, non? C'est Mossi Traoré, avec sa marque Mossi. Il fait justement des vêtements en fibre de lait. Enfin, en tout cas, c'est fait à partir de protéines de lait, la caséine. C'est pas du tout une innovation en réalité. Ça date, ça fait 90 ans que ça existe, qu'on connaît cette technologie. En fait, elle s'est peaufinée avec le temps et on arrive à la faire à moindre frais aujourd'hui. Du coup, ça pourrait potentiellement se démocratiser, mais ça va prendre du temps. En tout cas, c'est un procédé qui permet, enfin, c'est une matière artificielle. Mmh. Du coup, c'est à partir de fibres naturelles par procédé chimique, on arrive à tirer un tissu, de la matière qui peut être tissée pour obtenir du textile. Et voilà, c'est assez intéressant et c'est en train d'être développé en France, alors que la technologie, il y a des entreprises qui existent déjà en Italie et en Allemagne, notamment. Mmh. Donc voilà, toi, qu'est-ce que t'en penses, Sarah?
Moi, ce que j'en pense du fait d'utiliser de la protéine de lait, si je dis pas de bêtises, je ne pense pas que ça va autant se démocratiser que les autres fibres naturelles qu'on connaît, tout simplement parce que, voilà, c'est du lait, lait de quoi? Lait de vache, lait d'âne, enfin, on ne sait pas, ça peut en fait... utiliser une autre problématique, en fait. Ça peut créer une autre problématique, le fait d'utiliser du lait.
Alors, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Je tiens à préciser que c'est à partir de lait gaspillé de l'industrie laitière française. Donc, chaque année en France, on jette 7,4 tonnes de lait, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça, 7,4 millions de litres de lait. Voilà, qui est impropre à la consommation. Donc c'est de l'upcycling de choses qui allaient être jetées, en fait.
Et
moi, la question, lorsque j'ai lu ton article, la question que je me suis posée, c'est plutôt que de recycler des choses qu'on va gaspiller, ne faudrait-il pas peut-être repenser la chaîne de valeur et ne pas avoir à jeter en fait autant de trucs. Il y a aussi un autre truc que je trouve, il y a le côté dans ces matières animales, presque un côté un peu de l'ordre du fétiche, de l'ordre de ça vient de la vache, c'est du lait, c'est chelou. Est-ce que le fait de dire que c'est une fibre qui est tirée du lait n'est pas, genre, par définition, un super mauvais, une super mauvaise stratégie marketing? Il y a un truc un petit peu de l'ordre de, ok, ça sort du pis de la vache et ça se retrouve sur mon corps. C'est comme
s'il y avait aussi, c'est comme si on faisait avec de la nourriture, tout
avec du cheveu, avec de la nourriture,
ouais,
avec des ongles, avec des trucs, enfin, vous voyez, avec comme des sécrétions ou alors avec des choses.
Ça me dégoûte.
Non, mais en fait, moi, c'est la première chose que je me suis dit en y réfléchissant, si tu veux.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis, et en fait, justement, j'allais dire que, à mes yeux, a priori, ça me semblait être un bon argument marketing pour le grand public, dire « Regardez, c'est naturel, ça vient du lait de vache. Et en plus, on fait de l'upcycling parce que c'est du lait qu'on allait jeter. On est géniaux, achetez nos vêtements.
Ouais. »
C'est ça, en fait, c'est ce côté-là.
Ouais, je sais pas.
Mais il y a...
Ça dépend des clientèles, peut-être.
Ouais.
Moi, si, personnellement, je pense que... Non.
Toi, ça te dégoûterait aussi?
Ouais, non.
Mais il y a un côté un peu rebutant là-dedans, je trouve.
Bah... Pourtant, là par exemple, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais c'est de la peau retournée que tu portes en...
Non,
ça...
c'est de la microfibre. Ça doit être du polyester.
Ah ok, d'accord. Je pensais que c'était de la vraie peau, mais justement, j'allais dire, au contraire, il y a plein de gens qui adorent porter du cuir, ou alors
c'est
du
thym,
ou alors du veau velours, de la chèvre, de la croûte de porc, etc.
C'est vrai.
Du coup, c'est assez commun d'avoir ce genre de matière et se dire, bon bah... On utilise déjà du cuir qui est un déchet de l'industrie agroalimentaire, du cuir de vache et de porc, etc. Alors pourquoi pas du lait qui allait être jeté de toute manière?
Je pense que c'est le côté de nourriture. Parce
ouais.
que le cuir retravaillé,
oui.
je pense
oui.
c'est quelque chose de luxueux, c'est quelque
c'est
chose
ça.
De... Depuis la nuit des temps, c'est quelque chose de beau. De...
Ouais.
Le fait que ça se consomme à la base, en fait, je pense que c'est surtout ça. Vraiment, en fait, un cuir tout travaillé,
pourrir,
je pense pas
je
que...
Ouais, voilà. Je vois ce que vous voulez dire. En tout cas, il y a Ezoc dans le chat qui nous dit, bienvenue Ezoc. Déjà, ils vont s'aliéner tout le marché vegan. Donc oui, effectivement, et c'est un marché grandissant. Et actuellement, on sait qu'on a besoin d'aller vers plus de sobriété et c'est pas l'upcycling qui va nous y aider. Il va simplement justifier de continuer sur notre modèle actuel.
Exactement.
Effectivement, c'est ce que vous disiez aussi. C'est pourquoi pas essayer de moins gaspiller plutôt que d'essayer d'upcycler ce qui est gaspillé.
C'est ça.
Venons, on prend le problème à la source plutôt que d'essayer de régler les choses qui en découlent. Je vois ce que vous voulez dire aussi. Y a un autre sujet dont je voulais qu'on parle ensemble. C'était beaucoup plus people. On en revient. Est-ce que Elisabeth II était une icône de mode? Est-ce que Kourtney Kardashian maintenant est une icône de mode? Car Kourtney Kardashian, l'aînée du clan Kardashian-Jenner, a été nommée ambassadrice éco-responsable de Boohoo. Déjà, est-ce que vous connaissez Boohoo? Est-ce que vous consommez Boohoo? Ça représente quoi pour vous?
négatif.
Ouais, non, je consomme pas beaucoup et je sais c'est quoi comme marque. J'avais déjà vu un reportage sur les directeurs de boue. C'était assez drôle, voilà, j'ai envie de dire. Franchement, c'était très drôle parce qu'ils se ridiculisaient complètement comment ils représentaient leur marque. Quand le journaliste posait des questions sur ce qui se passe dans les ateliers à Londres, dans les autres pays, etc., s'ils sont au courant et comment ils répondent. Enfin, genre, c'est vraiment hilarant. Par contre, le contexte est grave, mais en fait, ils ont l'air tellement idiots lorsqu'ils répondent aux questions du journaliste que, enfin, voilà. Et non, franchement. Kourtney Kardashian dans tout ce qui est éco-responsabilité ou je sais pas quoi, enfin de toute façon les clans Kardashian on les classe pas dans cette catégorie là.
On est sur l'incarnation de l'influence de la famille d'influenceurs qui.
Bon après Kourtney c'est la plus celle qui correspond le plus quoi. Elle a quand même. Des combats.
Oui, c'est vrai qu'elle veut faire attention à l'éco-responsabilité,
oui,
entre guillemets.
De...
Mais Bou.
De la santé, tout ça, elle est un peu. Elle fait la fin.
En fait,
Bou, naturel,
c'est ça. En fait, Bou, le problème, il y a énormément de choses problématiques qu'ils font et. En fait, c'est une transition qui est trop. Il y a trop d'écart en fait, entre ce qui leur est reproché. Et le fait que hop, on veut faire attention à l'éco-responsabilité, etc. Enfin, en fait, l'écart est trop grand que on a du mal à y croire.
Il
n'est
pas crédible du tout.
C'est pas du tout crédible. En fait, c'est même pas crescendo, c'est d'un coup comme ça.
Ouais. Alors effectivement, c'est d'un coup comme ça aussi parce que Boo a été épinglé à plusieurs reprises et de plus en plus fréquemment pour pratiques trompeuses et aussi pour soupçons d'esclavage moderne. Il y a plusieurs assos qui ont essayé d'enquêter là-dessus. Parce que tu parlais de Londres, Sarah,
oui.
Effectivement, Boo, qui est le même groupe que Pretty Little Thing, c'est des marques qui revendiquent aussi le Made in England. Et en fait, c'est fabriqué dans des ateliers de misère en plein Londres ou la banlieue de Londres par des personnes extrêmement précaires qui sont payées à peine £1 de l'heure, quoi, un livre. Et voilà, donc c'est vraiment une misère. Et effectivement... Et Boo, du coup, essaye de redorer son image, de redorer sa réputation. Et nommer une ambassadrice comme ça aussi suivie, c'est aussi une tentative de fidéliser ces 200 millions de personnes qui suivent Kourtney Kardashian sur Instagram. Donc, c'est énormissime. Et peut-être que ces personnes-là, en fait, sont pas si sensibilisées que ça aux questions d'éco-responsabilité.
C'est
quoi.
Ça.
Parce que, enfin, on n'en sait rien, en fait. Moi, j'en sais rien, pardon. Je connais pas bien Kourtney Kardashian, mais je connais pas ses combats. Mais je sais pas à quel point est-ce qu'elle est crédible sur ce côté-là.
Malgré qu'elle en est, je pense pas que ce soit pour ça qu'on la suit, en fait.
C'est exactement ça. Bon, même si elle est directement affiliée à sa famille, donc les Kardashian, dans sa communication à Kourtney, on ne ressent pas du tout ce côté de sensibilisation sur l'éco-responsabilité. Oui, chez elle, dans son quotidien, elle fait attention à ses déchets, mais sinon, sans plus, en fait. Y a
elle
pas...
fait le tri sélectif.
Voilà,
wow.
C'est ça. La poubelle jaune et violette. C'est ça.
En tout cas, pour recontextualiser, du coup, Kourtney Kardashian, là, elle a signé une collection de vêtements qui est disponible depuis le 13 septembre 2022, donc aujourd'hui. Okay. C'est une collection de vêtements qui est éco-responsable, sustainable fashion, mais du coup, ça veut dire que tout le reste ne l'est pas. Merci, Boo. Et aussi, outre cette collection capsule, il y a aussi toute une série de contenus éducatifs, pédagogiques sur l'éco-responsabilité. Donc, elle a fait appel à une amie influenceuse, Stephanie Shepard, cofondatrice d'une asso qui s'appelle Future Earth. Et aussi, elle va faire des contenus audiovisuels, donc des vidéos, pour raconter un peu les coulisses de la création de cette collection et ce que ça raconte sur les enjeux d'éco-responsabilité dans la mode, notamment le développement textile, comment réduire les déchets, etc. Donc tout ça va sortir au compte-gouttes sur les réseaux sociaux de Boo et de Kourtney Kardashian. Mais ouais, dites-nous dans le chat, en tout cas, ce que vous en pensez de cette nomination et est-ce que vous la trouvez crédible? Est-ce que ça vous donne envie d'aller chez Boo ou au contraire de tout brûler? Perso, je penche plutôt pour la deuxième option. Qu'est-ce que t'en penses?
Mais ben, c'est une énième collection qui est labellisée sustainable. Pour moi, une vraie collection sustainable, c'est une collection qui n'existe pas. Enfin, c'est pas une collection
c'est qui produit plus,
voilà,
de
qui va
vêtements.
Pas se rajouter à toute l'économie qui existe déjà, et c'est assez. Enfin, je sais pas, c'est du greenwashing à l'état pur. Alors, en essayant de se faire l'avocat du diable. Tu disais effectivement qu'elle était vue, suivie par plus de 200 millions de personnes. Donc peut-être que c'est dans ces 200 millions de personnes, il y aura des personnes qui seront sensibilisées, qui trouveront que sa pédagogie est intéressante et changeront véritablement. Mais ça, c'est impalpable, c'est extrêmement difficile.
En fait, c'est un changement de communauté. Mais cette communauté, elle ne l'a pas. Cette communauté qui est sensible à l'éco-responsabilité, elle ne l'a pas. Et même dans tous les cas, j'avais une question, parce que l'association auquel elle veut s'affilier, Future Earth, est-ce que c'est une association qui est... qui est cohérente avec ses crédits, voilà. Parce qu'il y a beaucoup, parce que ça aussi, hein, même en France, on en a des associations qui se disent éco-responsables, blablabla, mais c'est que du pipeau, hein. Il y a beaucoup trop de choses qui sont problématiques. Donc c'est pour ça que moi, je suis en train de me demander si cette association, elle n'a pas été choisie parce que Madame Stéphanie Shepard est la copine de Kourtney Kardashian.
Je pense que c'est plutôt cette option-là, parce que sinon elle aurait fait une collab avec une asso beaucoup plus connue et reconnue mondialement pour ses efforts et ses résultats, comme Sea Shepherd par exemple, justement. Qui
je ne sais pas s'ils ont envie de décrédibiliser en travaillant avec Boo, ce genre de...
Bah voilà, justement. Donc Boo, je pense qu'ils ont pris l'asso qui voulait bien d'eux.
Donc, business, je me dis aussi. Donc...
Il y a Doano qui nous disait aussi dans le chat, alors c'est un long message, je cite, les écologistes émanent généralement des jeunes femmes mentionnées ci-dessus qui ont donc en fait un mode de vie hyper capitaliste qui détermine 80% de la consommation. Et entre les voyages en avion ou les vacances en bateau, les aliments exotiques et les accessoires inutiles, elles ont à elles seules un impact sur l'environnement plus important que celui d'une famille indienne de 10 personnes. Peut-être aurons-nous à l'avenir un esprit plus large, mais réduire la question à cet aspect est très gamin. Donc ça, je pense que c'était par rapport à la question du véganisme un peu plus tôt.
Non, c'est par rapport à Kourtney Kardashian. Il est en train de parler sur la famille des Kardashian.
Mais oui, effectivement, c'est une famille qui a été épinglée à plusieurs reprises pour ses voyages en jet privé qui consomment énormément de CO2, de kérosène. Et aussi, il y avait aussi Kourtney Kardashian, mais aussi Kim Kardashian ont été épinglés pour leur consommation d'eau en pleine pénurie, en pleine sécheresse aux États-Unis. Donc c'est des chiffres absolument affolants à chaque fois, des hectolitres pour leur piscine, sans compter tous leurs allers-retours en jet privé, quoi. Et il y avait Kylie Jenner aussi qui avait fait scandale avec sa photo.
Avec son copain là.
Ouais, on joue à pilouf, enfin à plouf-plouf, quel jet on prend, le tien ou le mien, pour ce trajet de 15 minutes.
Oh mon dieu.
Qu'on aurait pu faire en voiture. Voilà.
Oh là là, mais franchement, faut vraiment être ridicule pour faire ça, par contre.
Et tu le postes en plus. Enfin.
Non, mais au début, je croyais qu'elle trollait, hein, vraiment. Genre, qu'elle blaguait. Genre, c'était une blague. Mais elle est vraiment sérieuse, c'est ça le pire.
Pas du tout.
Oh mon dieu. Oh là là.
Enfin, voilà, c'est le petit tour d'actualité de la mode et de son cirque habituel.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.